Mes frères et sœurs, ouvrons le Saint-Livre. Ouvrons avec bonheur ce livre saint. Et lisons dans le premier livre de Samuel l'histoire de cette femme que Dieu a rendue stérile, que Dieu a beaucoup éprouvée, pour qu'elle puisse devenir un vase béni. 1 Samuel chapitre 1er, verset 6. Lisons comme si c'était la première fois que nous lisions ces paroles bénies. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 6e. Pénina, sa rivale, lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Vous pouvez le dire, oui. Amen. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, gardez la page, s'il vous plaît, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, vous avez une autre femme qui a vécu une autre expérience différente qui pourrait être la poursuite de l'expérience. Matthieu, chapitre 26, verset 6. C'est une histoire, comme je vous le disais l'autre jour, qui s'est passée à Béthanie. À Béthanie, s'est passé 7 choses. 7 choses, je comprends pourquoi Jésus a choisi Béthanie pour remonter au ciel. Si on a le temps, on le verra tout à l'heure. Je comprends vraiment pourquoi Jésus a été à Béthanie pour monter au ciel. Matthieu chapitre 26, verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Deux expériences vécues par deux femmes et qui doivent vraiment nous enseigner. Nous commençons cette année nouvelle. Je crois que si nous sommes ici, c'est que nous la commençons dans la grâce de Dieu. Il va de soi que si nous avons choisi de venir dans sa présence, c'est parce que nous avons décidé, à juste titre, d'obtenir la grâce de Dieu. Nous avons dans ces deux histoires un enseignement qui, je le crois, correspond à ce que Dieu veut, ce que Dieu veut faire ou refaire dans l'Église et peut-être surtout dans la vie de quelqu'un. Quand vous lisez l'histoire d'Anne, écoutez bien, parce que je sais ce matin, vous savez ce matin quand je me suis, d'ailleurs il y a une pensée qu'il faut que je vous dise, ce matin quand j'ai prié, il ne faut pas que je l'oublie, ce matin quand j'ai prié, le Seigneur m'a demandé de dire, avant de prêcher, qu'il fallait, c'est peut-être une personne, peut-être plusieurs, qu'une personne lise trois psaumes, pas qu'elle les lise avec la tête, qu'elle les médite avec le cœur. C'est le psaume 84, le psaume 116 et le psaume 121. Mais ça s'est vraiment imposé. Je sais que c'est la volonté de Dieu. Trois psaumes qui, si vous les vivez, nous les vivons, Dieu nous fera du bien. Écoutez bien. Vous voulez que Dieu vous fasse du bien? Eh bien, je vous en supplie, si Dieu vous parle au travers de ce que je suis en train de vous dire, méditez, vivez ces trois psaumes, et Dieu vous fera du bien. Je vous assure, ça s'est imposé. Vous savez, ça me rappelle qu'à la longue veille, il y a un monsieur qui est venu me voir, un Africain qui est venu me voir. J'étais dans une église, il y a quelque temps, et le Seigneur m'avait donné une prophétie, mais c'était à... J'ai failli ne pas la donner, tellement c'était précis. C'était quelqu'un qui avait abandonné Dieu à 10 ans. Quelqu'un qui s'était converti à 26 ans. Et cet homme se trouvait ce matin-là dans l'église et il avait besoin d'une parole. Et par la grâce de Dieu, et cet homme s'est tourné vers le Seigneur. Mais moi, je me souviens, je ne vais pas dire un truc pareil. Tu as renié Dieu à 10 ans. Déjà, 10 ans, renié Dieu. Et cet homme, il est venu dimanche, mercredi soir à la longue veille. Il me dit, monsieur Gou, il faut que je vous parle. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Et je vous le dis, de la part de Dieu, celui ou celle ou ceux à qui s'adresse cette parole verront que Dieu fait du bien. Il vous faut prendre le temps de faire en sorte que ces trois psaumes ne soient pas dans votre cerveau, mais soient dans votre âme. Et l'Éternel, comme c'est dit dans le psaume 116, vous fera du bien. Oui. Oui, le psaume 84, le psaume 116 et le psaume 121. Merci. Avec plaisir, ma sœur. Si vous voulez, je vous le rappellerai à la sortie pour ceux qui en ont besoin. Mais je vous assure que c'est rare, mais je le fais parce que je ne veux pas désobéir à Dieu. De la même manière que je peux me permettre de dire à certains frères et sœurs qu'ils ont reçu de temps à autre les dons spirituels et qu'ils ne les expriment pas. Et je vous encourage à prendre la victoire. Croyez-moi. Vous pouvez peut-être dire, tiens, c'est souvent toujours le même ou les mêmes qui prophétisent. Ben ouais. Mais ça serait bien. Moi, j'aimerais prophétiser qu'une fois par an. Parce que ça voudrait dire que d'autres, et souvent, combien m'ont dit, oh, monsieur Gou, vous avez donné cette pensée, je l'avais reçue. Et j'ai dit, pourquoi vous ne l'avez pas donnée? J'ose pas. Voyez, on va faire des progrès en 2015. On va faire des progrès. Alors l'histoire d'Anne, on peut y revenir si vous avez votre Bible. L'histoire d'Anne est une histoire particulière. Vous savez, moi j'avais un autre sujet. Et hier, ce sujet s'est imposé à mon cœur. Moi je voulais continuer absolument sur Béthanie. On va terminer avec Béthanie, vous l'avez vu. Parce que ça correspond. Mais cette affaire d'Anne, je vais vous poser une question. Après tout, écoutez bien, après tout. Anne aurait pu enfanter Samuel sans qu'elle soit stérile, à l'époque où il est né. Vous comprenez ce que je veux dire?
elle aurait pu ne pas avoir d'enfant, ou en avoir avant, et enfanter Samuel. Vous me suivez? Elle aurait pu enfanter naturellement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Dieu, écoutez bien, frères et sœurs, parce qu'on comprend la détresse, les épreuves, les combats que Dieu permet pour nous bénir personnellement, mais bien sûr que nous, nous pensons à notre bénédiction personnelle. Mais cette bénédiction d'Anne, elle était personnelle ou elle était pour le peuple de Dieu? Pour les deux. Elle était aussi pour elle. De toute façon, Dieu va la combler après. Vous lirez le psaume qu'elle a composé et vous verrez que cette femme, elle a été changée parce qu'il s'est passé quelque chose dans la souffrance. Alors c'est terrible à dire ou à redire, mais on voit quand on étudie la Bible, quand on la médite, c'est pas une question d'étudier, mais comme je le fais, comme je vous l'expose, on voit ce que le Seigneur est obligé de faire pour obtenir un instrument. Ou un instrument qui va enfanter un autre instrument. Ce que Dieu a permis que Anne vive pour qu'elle enfante le prophète Samuel. Vous ne trouvez pas que Dieu l'a quand même éprouvé? C'est écrit ou non que c'était Dieu qui l'avait rendu stérile? C'est pour ça que j'ai commencé volontairement par le verset 6, car l'Éternel l'avait rendu stérile. C'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Peut-être que vous êtes en train de traverser une forme de stérilité. Je ne parle pas de stérilité au niveau maternel, une stérilité spirituelle. Vous ne produisez pas du fruit et ça vous est insupportable. Peut-être que Dieu l'a permis. Ne soyez pas offusqués. Regardez le contexte, parce que c'est bien quand on étudie de regarder le contexte spirituel de cette affaire. Vous regardez comment vivait le peuple de Dieu. Vous le relirez, vous verrez ce qui s'est passé, les premiers chapitres, ça vous suffira pour comprendre ce qui se passait et comment Dieu, dans sa souveraineté, aiguillait les choses pour rétablir l'ordre. Regardez comment l'œuvre de Dieu se manifestait, regardez les fils du sacrificateur Élie, regardez comment les choses étaient charnelles. Vous savez que les Philistins représentent la chair, et vous avez vu comment les Philistins, à force de mettre la pression, ils ont fini par pouvoir voler l'arche de l'Éternel. Ils s'y sont arrivés. Ils ont réussi à voler l'arche de l'Éternel. Il y avait un adultère spirituel, un mélange pas possible entre la chair et les œuvres et l'œuvre de Dieu. Regardez le comportement des fils d'Élie, c'était quelque chose de terrible. Et ça ne peut que vous montrer que Dieu ne pouvait pas être d'accord avec cette affaire. Est-ce que Dieu est d'accord quand les choses en sont là? Non, bien sûr que non. Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'était pas d'accord avec ce qui était en train de se passer du temps du sacrificateur Élie. Et Dieu va donc concevoir un plan pour que les choses changent, même s'il va y avoir le jugement. Mais mes frères et sœurs, si vous comparez ce qui se passait au temps du livre des juges à notre histoire, c'est exactement pareil. Et vous savez tous, je ne vais pas en parler ce matin parce que ce n'est pas le sujet, vous savez tous qu'on va droit, enfin, le monde, parce que l'Église est gardée du jugement. Mais le monde va droit vers le jugement, parce que le monde a choisi les ténèbres. Mais ce n'est pas parce qu'on va droit vers le jugement, et on y va. Je lisais cette semaine, quand vous savez, dans Daniel, quand il est dit que le dictateur là, qui va sortir de cette bête qui n'est même pas comparable avec une bête sur terre, il va espérer changer les temps et les lois. Mais vous savez, on y est en plein dedans. Je donne un exemple, c'est pour vous donner une idée qu'on va droit vers le jugement. L'histoire du dimanche, vous savez qu'on est en train de tout faire pour qu'il n'y ait pas le dimanche, pour que le dimanche soit un jour comme les autres. Peut-être que vous, ça vous intéresse pas ou vous y réfléchissez pas. Il voudra changer les calendriers dans une autre version. Le calendrier et les lois. J'ai une fille, moi, qui est enseignante, on leur a interdit de parler de Dieu. Par contre, vous pouvez parler, en veux-tu en voilà, de l'homosexualité et du mariage pour tous aux enfants. Et je peux vous dire que notre société, entre guillemets, qui était judéo-chrétienne, est loin est loin de ce qu'elle devrait être. Il changera les calendriers et les lois. Nous sommes dans ce temps où le monde va droit vers le jugement. J'y reviendrai parce que franchement, je pense que c'est important. Même si l'Église fidèle, l'épouse, elle qui est dans la paix, parce que si l'Église, elle, est en vrac et n'est pas prête dans bien des endroits, l'épouse fidèle, elle, elle est prête. Et les vainqueurs, ils le savent qu'ils sont prêts. Donc on va droit vers le jugement, mais jugement ou pas? Parce qu'il y a des gens qui disent, mais non, le jugement, ce n'est pas possible, il ne peut pas avoir lieu, Dieu est trop bon. Écoutez-moi, c'est écrit, le jugement, il viendra. Mais même si le jugement vient, même si le monde va droit vers la colère de Dieu, il n'empêche, comme c'était le cas du temps des fils d'Élie, qui vraiment avaient été aux limites, Dieu a un plan. Et il serait dommage que les chrétiens qui sont conscients que le jugement de Dieu arrive, que la colère de Dieu arrive, deviennent fatalistes, philosophes en disant, ben c'est comme ça, le jugement de Dieu vient, la colère de Dieu vient, bon, et ben on verra bien. Non, oui c'est vrai, mais je crois qu'un chrétien, il doit avoir une espérance contre toute espérance. Je pense à un texte des Romains. Un chrétien rempli du Saint-Esprit est capable de faire la différence entre la colère qui vient, le jugement qui s'approche, et de notre côté, le plan de Dieu pour l'œuvre du Christ. Est-ce que vous savez que Dieu a un plan pour 2015? Il a un plan, ne vous inquiétez pas, Dieu a un plan. Il n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Je vais m'autoriser à vous raconter, parce que j'y ai pensé cette semaine, on m'avait raconté la vision, une vision qu'avait eue le pasteur Ove Falg. Vous l'avez connu peut-être, vous, non? Vous l'avez connu? Ove Falg. C'est un vieux pasteur qui est décédé depuis longtemps. Vous allez comprendre pourquoi, mais si Dieu me le met à cœur, c'est que ça doit être important pour quelqu'un. Ove Falg, il y a longtemps de ça, c'était à l'époque où les pasteurs roulaient à bicyclette, donc vous voyez, il n'y avait pas de voiture. Il avait eu une vision. Il avait eu une vision, il partait faire une réunion à vélo, et tout d'un coup, il y a eu une lumière, il a fallu qu'il s'arrête, il s'est mis en prière, il a eu une vision. Et il y avait des orages, des éclairs, il fallait qu'il avance à pied, il fallait qu'il avance, il voyait quelque chose, il s'approchait, et il s'est rendu compte que ce quelque chose, c'était une croix. Une croix, une grande croix, là dans la campagne. Et le Seigneur, il dit, vas-y, avance. Je dis ça parce qu'il y a 50 ans, quand il a eu cette vision, on ne l'a pas cru, cette vision. Mais aujourd'hui, vous allez voir comment c'est facile à comprendre. Il avance, et le Seigneur dit, rentre. Et il se rend compte que la croix, c'est une prison. C'est une prison. Alors il rentre, il ouvre la porte, et la première prison, c'est l'Église catholique romaine. Continue, il monte au premier étage, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Et s'il voit l'église presbytérienne emprisonnée. Il continue, il voit l'église, je ne sais plus, apostolique, enfin il voit plusieurs dénominations. Il continue, l'église baptiste. Alors là, ça a commencé à devenir... C'est pour ça que ça n'a pas été cru. Il continue, à l'étage de supérieur... L'église évangélique. Et il monte à l'étage, au dernier, dans la prison, l'église pentecôtiste. Et il est ressorti, bien sûr, tout triste. Il a raconté ça 30 ans plus tard. Ça n'a encore pas été accepté. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous nous rendons compte que le système religieux est emprisonné. Tout le système religieux. Et que nous devons nous réveiller pour qu'il y ait des hommes, malgré le jugement, malgré la colère de Dieu qui vient, parce qu'après il y avait des éclairs, des tonnerres qui montraient que le jugement de Dieu allait venir, mais qu'il y aurait des vainqueurs dans toutes les églises, là où les hommes, eh bien, s'appliqueraient à sortir de la religiosité. sortir du carcan de des mouvements ecclésiastiques et pour être véritablement des femmes et des hommes remplis du Saint-Esprit. Regardez Anne, ce que Dieu a permis qu'elle traverse. Vous avez vu tout ce qu'elle a traversé, cette pauvre femme ? Et qu'est-ce que Dieu ne doit pas faire pour trouver quelqu'un qui, malgré le fait que le jugement vienne, quelqu'un qui va se réveiller, même si les années et les années, parce que ça a duré des années cette affaire, vous l'avez lu avec moi. Mais pourquoi donc Dieu a agi ainsi? Pourquoi Samuel n'est pas né naturellement? Après tout, voilà, bon, je vais donner un fils à Anne, elle est bien cette femme, elle est sérieuse, elle est pieuse, et voilà, elle va avoir un fils, il remplacera les fils d'Élie parce que ce sont des vauriens. Non, il y a toujours besoin de souffrance. C'est écrit dans la Bible, armez-vous de la pensée de souffrir. Alors, il y a plein d'explications. Moi, j'y réfléchis toute la soirée, toute la journée d'hier. Toute la journée d'hier, j'ai réfléchi à ça. Toute la journée. Et une partie de la nuit. Pourquoi Dieu agit comme ça? Pourquoi Dieu a-t-il fallu que Joseph soit pendant 13 ans, de 17 à 30 ans, éprouvé comme il l'a été pour devenir l'homme de Dieu? Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire juste un voyage de là où il était, voilà, ça aurait pu prendre combien? Une semaine. Hein. Et il a fallu 13 ans de souffrance. Pourquoi? Pourquoi Dieu ne fait-il pas les choses le plus naturellement possible? Alors que ses plans sont conçus à l'avance. Vous savez, pour 2015, écoutez bien mes frères et sœurs, ceux qui veulent ne pas être piégés par l'ecclésiastisme, par la religion, par le formalisme, mais qui veulent vivre quelque chose avec le Seigneur, croyez-moi, dans toutes les églises du monde, il peut y avoir des vainqueurs. C'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra. Mais Dieu est souverain, nous on ne comprend pas, nous on a du mal à voir déjà la fin du mois. Oui ou non, on est là, mais vous croyez que Dieu il a déjà tout conçu à l'avance? Dieu sait tout, il est tout-puissant, il est souverain, il savait exactement ce qui arriverait et il savait comment un homme pourrait devenir cet instrument pour la gloire de Dieu. Il savait comment, quand Saül désobéirait, il savait comment un jeune garçon, un jeune petit berger là-bas, du côté de Bethléem, deviendrait ce grand roi d'Israël qui suppléerait au manque. Et dans ce jugement qui vient, Dieu sait. Et s'il décide qu'une femme souffre et qu'elle soit même stérile, qu'elle soit dans l'amertume, qu'elle soit dans la confusion, et toujours on voit ces problèmes parce qu'on est là, nous on voudrait que les choses soient clean, etc. Mais quand on voit vraiment ces affaires, on voit que Dieu permet la souffrance. Et je voudrais m'adresser ce matin à ceux qui sont peut-être en train de traverser des moments de stérilité, des moments de souffrance. Regardez tout ce que cette femme a vécu. Elle était là, elle en est arrivée à avoir de l'amertume dans l'âme. Elle est dans une agonie réelle. Lorsqu'elle va dans le temple prier, il a fallu que ça... Et ça a duré des années. Comme quoi on est long à... Enfin, je ne sais pas à vous, mais moi je trouve qu'on est long à obéir. Vous ne croyez pas? Des fois, la passe de mettre 3 ans, et bon, on va mettre 20 ans. Ça vous choque ce que je vous dis? Heureusement que Dieu est patient. Il y a des leçons, on devrait les apprendre, je le pense. En 5 ans, mais moi je suis dedans, ne vous inquiétez pas. Il a fallu 25 ans ou 30 ans. C'est vrai ou c'est pas vrai? L'instrument de Dieu. Une église qui veut être un instrument dans ce temps de malade, dans ce temps de colère, dans ce temps de jugement qui vient. Mes frères et sœurs, Dieu a une solution. Gloire à Dieu. Dieu a des plans et des projets. Il y a une sœur qui le disait tout à l'heure dans sa prière. Oui, Dieu a conçu des plans, des projets, de l'avenir et de l'espérance. Alors la conclusion que l'on peut faire de cette affaire, pourquoi Dieu permet-il autant de souffrances dans la vie d'une personne? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'un instrument de Dieu souffrira pour la simple et unique raison que la communion avec Dieu souvent ne vient qu'à cause de la souffrance. Vous pouvez le calculer comme vous voudrez, Mais c'est la souffrance. Alors, les gens intelligents, je parle. Parce que les gens rebelles, ils s'éloignent de Dieu dans la souffrance. Quand David disait, tu es dans le, oh Dieu, je suis dans le désert, je te cherche. Il y a des gens dans le désert, ils fichent le camp. Si je suis dans le désert, c'est fini. Mais vous voyez des hommes qui ont reçu cette intelligence de Dieu, qui ont développé cette intelligence, dans le désert, il a cherché Dieu. Anne, elle aurait pu dire, bon, il y en a assez de cette Pénina, moi je ne vais pas à l'église avec elle, ça m'énerve. Parce qu'elles étaient dans la même église, Anne et Pénina. Mais la souffrance a provoqué, vous l'avez vu, j'invente rien, la souffrance, l'amertume, l'anorexie, elle ne mangeait pas. Les pleurs et tout ce qui est écrit, l'excès de la douleur. Et relisez ce texte et mettez tout, vous allez voir que ça fait une tartine, hein, de souffrance. Mais cette souffrance, pardon, a développé une véritable communion avec Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. L'Éternel n'a pas rendu stérile Anne pour la faire souffrir pour rien. Les souffrances que vous êtes en train de traverser ne sont pas des souffrances inutiles. Mes frères et sœurs, soyez-en convaincus. Chaque souffrance, chaque épreuve, chaque larme, chaque incompréhension peut être l'occasion pour Dieu de vous faire devenir un instrument qui va servir à la correction de l'œuvre de Dieu. Parce que ce qui se passe dans les églises aujourd'hui, oui, c'est comme une croix dans laquelle toutes les dénominations sont emprisonnées. Il n'y en a pas une meilleure que les autres. Et le problème, ça, je ne pense pas que ça gêne Dieu. Dieu, lui, regarde les cœurs. Et il voit s'il y a quelqu'un, comme Anne, qui malgré la souffrance, et qu'on laisse traîner pendant des années, elle peut-être elle a fait comme nous, quoique elle a fait traîner ça des années, peut-être que nous on aurait fait traîner ça 20 ans, je ne sais rien, on n'est pas meilleur qu'elle. C'est facile de dire, tiens, toutes les années elle était pareille, mais elle a mis du temps à réagir. Quand je pense ce qu'il faut qu'on traverse parfois, je lisais encore cette semaine le témoignage de David Duplessis, écoutez, parce que c'est quand même, cet homme il a tellement été connu dans le mouvement qu'on l'a appelé Monsieur Pentecôte. Tellement il a servi le mouvement des assemblées de Dieu dans le monde. On l'a appelé Monsieur Pentecôte. C'est vraiment un homme de Dieu. Tapez sur Internet David Duplessis, vous allez voir ce que cet homme a fait. Et cet homme qui servait Dieu dans le mouvement des assemblées de Dieu, je vous le donne pour vous expliquer comment on a besoin de souffrir pour. C'est terrible pour obéir. Cet homme, David Duplessis, avait dans son cœur la conviction qu'il devait prêcher dans d'autres dénominations. Pensez donc, à l'époque, il y a 50 ans en arrière, c'était presque de l'hérésie. Qu'un pasteur pentecôtiste aille prêcher chez les méthodistes ou chez les catholiques. Malheur. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et quelques mois plus tard, il rentrait d'une réunion. Écoutez bien, ça fait pitié, quoi. Il rentrait d'une réunion. Et je ne sais pas comment c'est écrit, si c'est le passage à niveau qui ne s'est pas levé ou fermé. Au moment où il traversait un passage à niveau, un train l'a fauché. Il l'a traîné sur des centaines de mètres, et quand il l'a sorti de la voiture, il était moitié mort. Des fractures de partout. Il est resté des mois à l'hôpital. Des mois à l'hôpital. Et il y a une grande discussion qui s'est engagée avec le Seigneur pour qu'il puisse être d'accord pour prêcher aux autres dénominations. Et au bout d'un moment, ça s'est terminé. Il lui a dit, écoute Seigneur, tu sais bien que je n'aime pas les autres dénominations. Il a été honnête. Et Dieu lui a dit, demande de l'amour et je t'en donnerai. Et quand vous lisez le témoignage de David Duplessis, c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce que Dieu n'est pas obligé de faire pour nous amener à obéir? Et peut-être il y a quelqu'un parmi vous, moi il m'a fallu un AVC pour comprendre certaines choses. Vous savez, on est tous pareils. Je crois qu'on est tous à la même enseigne. Mais mes frères et sœurs, il y a peut-être un jeune que Dieu appelle au ministère. Vous luttez, vous combattez, vous souffrez, vous pleurez, j'en sais rien. Mais si Dieu vous appelle, moi je vous exhorte à ne pas attendre. Dieu sait comment il doit préparer un instrument pour que sa volonté soit faite. Et Dieu ne se moque pas des ânes. Dieu les aime parce que justement il y a quelque chose. C'est impressionnant comment, regardez les femmes stériles dans la Bible, comment Dieu les a bénies, qu'il avait rendues stériles. Alors on peut pleurer, on peut souffrir, l'excès de la douleur, la solitude, personne n'a compris. Mais voyez, malgré tout, c'est ça qui détermine, qui forge le caractère. Elle allait au temple, elle allait au temple. Il y a un ange personnel, une bénédiction personnelle. Moi, je crois qu'il y a des bénédictions personnelles. Vous croyez à la bénédiction personnelle ? Mais vous pouvez y croire. Vous pouvez y croire à la bénédiction personnelle. Parce que Dieu bénit individuellement. Vous le croyez, ça ? De toute façon, si vous ne le croyez pas, c'est pareil. Dieu bénit individuellement. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est une loi. Est-ce que Dieu a béni Anne après lui avoir donné Samuel ? Et après tout, vous, mes sœurs, vous qui êtes femmes, vous qui avez enfanté, répondez honnêtement. Quand on voit l'histoire, c'est difficile. Mais vous qui avez enfanté, qu'est-ce que vous préférez ? Avoir un Samuel ou tous les enfants de Pénina rassemblés ? Qu'est-ce que vous auriez préféré avoir, mes sœurs ? Et voilà. Vous avez vu comment... Mais sur le moment, c'est la salle qui était bénie, c'est Pénina. Les enfants de Pénina, on n'en parle jamais. Samuel, on en parle dans le monde entier, dans les milliers d'églises, tous les jours. Et ce n'est pas une question de réputation, mais c'est pour vous montrer comment Dieu forge des instruments. Et moi, je vous le dis parce que je le sais, Dieu cherche un chrétien, un couple, un serviteur, une servante, une église. Alors ça, c'est le top niveau, que Dieu trouve une église qui va, malgré le jugement, se lever et dire, voilà, je veux obéir au Seigneur, quelle que soit mon amertume, quelle que soit mon anorexie, parce qu'on peut être malade. On peut être malade, c'est pas interdit d'être malade. Est-ce que ça peut arriver d'être malade ? Ben oui, quelle que soit ma souffrance, mes pleurs. Relisez le contexte, l'irritation. Comment ça, dans la maison de Dieu ? Quelqu'un pourrait-il être utilisé pour nous pousser à nous irriter ? Est-ce que c'est normal ? Ben regardez, tout le long de la Bible. Tout le long de la Bible, à partir du moment où il y a l'œuvre de Dieu qui se fait, il y a l'œuvre de l'ennemi aussi qui essaye de détruire. On le voit dans ce texte où Pénina irrite Anne pour justement la pousser à se retirer de l'église du temple, pour la pousser en dehors du plan de Dieu, mais elle persévérait. Regardez dans le texte que nous avons lu dans Matthieu 26, c'est le même principe. Dans Matthieu 26, qu'est-ce qui se passe ? Béthanie représente vraiment la maison de Dieu modèle. Là, dans cette maison, 6 jours avant la Pâque, quelques jours avant que Jésus ne meure, Jésus se retrouve là, il est recherché comme malfaiteur, il se retrouve dans la maison de Simon le lépreux, c'est un des derniers repas qu'on va lui servir, peut-être le seul dernier vrai repas que Jésus a eu. Il est là, il est recherché comme un criminel. Simon le lépreux, cet homme certainement qui a été l'ancien lépreux, il a été béni par lui. Et le voilà dans cette maison, et Marie, qui représente vraiment le chrétien qui a mis Jésus au-dessus de tout. Cette femme, Marie, qui rappelez-vous ce qui s'est passé en amont. Il s'est passé que Marie se tenait souvent assise à ses pieds. Elle écoutait la parole, elle n'écoutait pas pour écouter, elle n'écoutait pas pour dire « Ah, c'était un bon sermon, c'était bien, c'était intéressant ». Non, elle vivait quelque chose avec Dieu. Et Jésus était devenu celui qui était au-dessus de tout. Il était Dieu, elle le savait. C'est la seule, parmi les milliers et dizaines de milliers qui ont été bénis parmi les pasteurs, parmi tous les serviteurs de Dieu, il n'y a eu qu'une femme qui a vraiment compris ce que Jésus disait, à savoir qu'il allait mourir sur la croix. Puisque Jésus a dit au pasteur, mais vous n'avez pas vu ce qu'elle l'a fait, elle l'a fait pour ma sépulture. Cette femme était dans le plan de Dieu, et Anne est devenue dans le plan de Dieu, et elle a enfanté un instrument qui va servir à la restauration d'Israël. Marie à Béthanie représente vraiment l'église qui est béni, qui a mis Jésus au-dessus de tout. Vous voyez, c'est une chose de chanter « Jésus, tu es précieux ». Mais je peux vous dire que pour Marie, Jésus était vraiment très précieux pour elle. Il n'était pas le premier dans sa vie, il n'était pas le premier. Il était au-dessus de tout. Il était toute sa vie. Et cette femme, elle va faire quelque chose d'extraordinaire qu'on raconte dans les églises du monde entier. D'ailleurs, Jésus l'a dit, ce qu'a fait cette femme, on le racontera dans le monde entier. C'est l'œuvre de Dieu. Béthanie représente vraiment l'œuvre de Dieu. Et paf, encore une fois, des chrétiens, des pasteurs. Et à quoi bon cette perte ? Mais vous ne vous rendez pas compte. Quand vous lisez dans l'évangile de Jean, où Jean est un peu plus précis que Matthieu, Jean est un peu plus précis, c'est là qu'on voit que ça s'est passé 6 jours avant, et qu'il est dit, vous avez vu, les disciples s'indignèrent contre elle, à quoi bon cette perte? Mais quand vous lisez dans l'évangile de Jean, il y a peut-être tous les disciples, dans l'évangile de Marc, c'est quelques-uns, et dans l'évangile de Jean, c'est Judas Iscariote. Ah, Judas. Judas qui, lui, va dire, ben on va le lire, plus quand même, en prenant le temps, parce que ça vaut la peine quand même. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 12. C'est quand même important, mes frères et sœurs, que nous comprenions que quand l'œuvre de Dieu se fait, il y a toujours de l'opposition. Il y a toujours le diable qui essaye de décourager, toujours. Jean chapitre 12, on voit bien que c'était 6 jours avant la Pâque. Vous voyez donc, 6 jours avant la Pâque. Alors, verset 4, un des disciples, Judas Iscariote, voyez, vous connaissez Judas, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Franchement, franchement, quand vous voyez que juste après, vous lirez la suite, il va magouiller avec les sacrificateurs pour le vendre pour 30 pièces d'argent. Et là, il a le culot, l'hypocrisie de faire le malin et de dire oui, on aurait pu, mais mes frères et sœurs, dans l'œuvre de Dieu, et j'aimerais que vous reteniez que cette pensée ce matin, mais qu'est-ce qu'il est Jésus pour nous ? Qu'est-ce qu'il est Jésus pour vous ? C'est important parce que Dieu regarde, je vous le dis. Dans la maison de Dieu, je le répète, il y aura toujours de l'adversité. Vous l'avez vu avec Anne et Pénina, c'est imparable. Vous le voyez là, l'œuvre de Dieu, Béthanie, c'est vraiment l'image excellente de la maison de Dieu. Il faut qu'il y en ait un, parce que l'amour de l'argent, un ça va être l'amour du monde, un ça va être, je ne sais pas moi, la rancune, etc. va réagir lorsque l'œuvre de Dieu va se faire. Il y a toujours de l'opposition. Mais qu'importe, ce qui est important, c'est que l'œuvre de Dieu se fasse. Et Marie va répandre ce vase. Il y a l'aboutissement, il y a quelque chose qui se passe. Parce que le vase, vous le savez dans la Bible, le vase c'est nous sommes des vases de terre. Mais à l'intérieur de chacun de nous, si vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, Jésus-Christ est le parfum en vous. Vous le savez. Mais un parfum, s'il est enfermé dans un flacon, il ne peut pas s'extérioriser. On ne voit que le vase, on ne voit que l'homme, on ne voit que la personnalité de l'homme. Et ce n'est pas cela qu'il faut qu'on voit. Il faut que lorsqu'on est avec un chrétien, on voit le caractère du Seigneur qui se développe, qui s'exprime. Et vraiment l'enseignement de cette histoire, au-delà de l'opposition qu'il y a dans la maison de Dieu, au-delà de certains qui n'ont pas compris, parce que s'ils avaient écouté Jésus, ils n'auraient pas réagi comme ça. Et le problème de nos réactions, c'est parce qu'on n'a pas écouté le Seigneur comme on aurait dû l'écouter. À quoi bon cette perte ? Qu'est-ce qui vaut Jésus pour vous ? 300 deniers ? 300 deniers à l'époque, ça correspondait pour ceux qui gagnent le SMIC aujourd'hui à peu près à 14 000 euros, 15 000 euros, vous voyez ? Est-ce que Jésus vaut un peu plus de 14 000 euros pour vous ? Si vous avez un grand salaire, allez, mettons les 30 000 euros ou 40 000 euros. À quoi bon cette perte ? Quand j'ai dit que je rentrais dans le ministère, dans ma propre famille, il y a quelqu'un qui était voir ma mère et qui lui a dit « Gérard, il rentre dans le ministère avec Isabelle ? Ils n'auront rien. Ils ont gâché leur vie. » Gâché sa vie. Quand on sert le Seigneur, voyez combien. Et c'est un chrétien à l'époque. À l'époque, il était chrétien. Ça fait pitié. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que le Seigneur Jésus-Christ ? Mais je l'entends ça régulièrement. Des gens, quel gâchis ! Oh, je ne vais pas donner pour l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que bon, il faut interpréter, c'est quand même écrit. À quoi bon cette perte ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il était Jésus pour eux ? Vous allez me dire, mais ça allait être des pasteurs, mais heureusement qu'ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? À quoi bon cette perte ? Ça veut dire que Jésus n'était pas digne de ça. Il ne le méritait pas. Un parfum de cette valeur. Mais mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que chaque fois que nous faisons quelque chose pour Dieu, de tout notre cœur, nous croyons qu'il est digne. Il est digne. Il est au-dessus de tout. Il est le seul digne. On l'a chanté tout à l'heure, le dernier chœur. À lui soit la force, la sagesse. Dieu n'a pas donné sa force à des hommes. Il n'y a pas un homme à qui Dieu a donné sa force. Est-ce qu'il a été digne? Est-ce que Samson a été digne? Il n'y a pas des hommes à qui Dieu a donné la sagesse? Salomon, Dieu ne lui a-t-il pas donné de la sagesse? En a-t-il été digne? Lui qui va construire des temples aux idoles à cause des femmes qu'il affectionnait? Dieu n'a-t-il pas donné de l'intelligence à David? En a-t-il été digne malgré toute l'intelligence qu'il a reçue? Non. Le seul qui est digne de recevoir la force, l'intelligence, la sagesse, c'est le Seigneur. Parce que moi, je peux vous dire, sincèrement, c'est des images, c'est des textes, je m'en imprègne jour et nuit. J'ai réfléchi à ce que moi j'aurais dit le jour où Marie a répandu le vase. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quelques heures après, quelques jours après, Judas va le vendre le Fils de Dieu. Il fallait y penser. Déjà, il fallait y penser. Pour le prix d'une femme. Parce que dans l'Ancien Testament, même si aujourd'hui on est tous égaux, vous inquiétez pas, les femmes étaient vendues 30 pièces et les hommes étaient vendus 50 pièces. L'humiliation, jusque-là, c'était une humiliation, vendre un homme pour le prix d'une femme. Jésus, c'était quelques jours avant qu'il meure. Et il va juste dire, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Ah, moi, je n'aurais pas dit ça. Mais en étant sérieux, j'aurais dit, mais vous faites de la peine à cette femme. Mais vous ne vous rendez pas compte à quel point vous m'en faites. Dans 6 jours, je vais mourir sur la croix pour vous. Et vous êtes indigné pour un vase de parfum. Moi, je ne veux pas vous dire tout ce que je leur aurais dit. Mais ça m'énervait. Moi, je crois que notre Seigneur, il est digne. Qu'on lui donne tout. Est-ce que tout, c'est pas notre argent, parce qu'on peut lui donner notre argent et ne pas lui donner notre vie. Quand je dis tout, c'est notre vie. Le vase de terre que nous sommes, ma vie, je veux te la donner, je veux la briser. C'est pour ça que j'ai parlé de Anne. Anne n'a-t-elle pas été brisée? Bien sûr qu'elle a été brisée. Et je m'adresse à ceux qui sont dans l'épreuve. Peut-être que Dieu, pas peut-être, c'est sûr que Dieu est en train de vous éprouver parce que, oui, le jugement vient. Vous avez baissé les bras en disant, ben, le jugement vient, c'est comme ça, Inch'Allah, ça va venir. Non, mes frères et sœurs. Le jugement vient, c'est imparable. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est clair, le jugement, il vient. Mais l'Église peut être une source de bénédiction jusqu'à la seconde avant l'enlèvement. Alors, qui voudra être Béthanie? Vous savez, quand je vous disais en introduction, quand je vous disais que Jésus... C'est vrai quand même, moi j'ai beaucoup réfléchi parce que autrefois je n'avais pas de texte à partager, je me suis dit, et j'ai pensé à Béthanie parce qu'il avait été reçu à Béthanie, alors qu'il n'a pas été reçu parmi les siens. Et à partir de là, j'ai regardé, tiens, comme il y a de textes sur Béthanie, j'ai vu qu'il y en avait 7. Et le dernier, c'est quand Jésus remonte au ciel, il amène ses disciples, il conduit ses apôtres à Béthanie et il les bénit. Et en les bénissant, il est enlevé au ciel. Il aurait pu choisir Bethléem. Est-ce que Jésus aurait pu dire, tiens, je suis dans Bethléem? Après tout, il est souverain quand même. Mais réfléchissez un peu à mes films. Est-ce que Jésus aurait pu décider d'aller à Bethléem pour remonter au ciel? Vous savez, les symétries dans la Bible, il y a plein de symétries. Vous voyez, le premier miracle, c'est les noces de Cana. Qu'est-ce qui se passe en l'enlèvement de l'église? Après l'enlèvement de l'église, qu'est-ce qu'il y a? Les noces de l'agneau. Il y a plein de symétries comme ça. Alors on aurait pu dire, tiens, il est né à Bethléem, il repart au ciel de Bethléem. Ou alors il aurait pu repartir à Golgotha. Est-ce qu'il aurait pu aller à Golgotha pour repartir au ciel? Vous rendez compte de l'image de la victoire, là, je suis mort sur la croix, mais je remonte au ciel. Quel enseignement nous n'en aurions pas tiré de cette victoire si Jésus était reparti au ciel de Golgotha, ou à Gethsémané, Ou au temple, est-ce qu'il aurait pu aller sur le toit du temple? Tiens, vous rappelez quand le diable l'avait amené sur le toit du temple pour qu'il se jette? Est-ce qu'il aurait pu aller monter? Est-ce qu'il aurait pu ce jour-là monter sur le haut du temple et dire voilà, voilà? Il a été à Béthanie. Mes frères et sœurs, Béthanie, c'est vraiment le lieu où le Seigneur se retrouve avec les siens. Dans le temple, il n'était pas bien accueilli. Mais Béthanie, c'est le trait qui devrait caractériser la véritable Église. C'est pour ça que tous les systèmes religieux, et même notre mouvement, ne nous leurrons pas, même notre mouvement est devenu religieux, et la vision d'Ove Falg il y a 50 ou 60 ans était, je peux vous dire, juste, parce que quand Jésus reviendra, les mouvements seront empêtrés dans la religiosité. Mais vous croyez que ça va gêner Dieu de faire son œuvre? Mais mes frères et sœurs, même si notre mouvement, même si les assemblées sont empêtrées dans le formalisme, je vais vous dire, il y a des gens qui sont exactement comme Marie de Béthanie, comme Anne, et malgré les souffrances, les pleurs et tout ce que vous voudrez, il y a un temps où l'œuvre de Dieu se fait, où l'instrument de Dieu est libéré. En ce qui concerne Anne, c'était l'enfantement de Samuel. En ce qui concerne Marie, l'aboutissement, c'était ce vase de parfum qui représente vraiment la vie de Christ, qui va jaillir sur son œuvre. Il y avait plein de maisons, c'était un repas, peut-être ça sentait peut-être, je ne sais pas moi, les moutons, ça sentait la cannelle, le gigot, je ne sais rien. Et tout d'un coup, ce parfum s'est libéré dans cette maison. Mes frères et sœurs, nous voulons que nos églises soient des Béthanie. Chaque église devrait être Béthanie. Chaque chrétien devrait être Béthanie. Le peuple de Dieu devrait être vraiment Béthanie. Et c'est cela qu'on devrait dire. Mais oui, parce que Jésus est précieux. Est-ce que Jésus est précieux dans votre vie? Je termine avec ça. Est-ce que Jésus est précieux? Ou est-ce que tout vous coûte? Ah, il faut aller à l'église. Il faut aller à l'église. J'ai entendu ça. Il faut aller à l'église. Il faut aller à la réunion de prière. Il faut aller à l'évangélisation. Moi, je ne veux pas juger. J'ai été certainement quelques fois dans ce cas de figure. Pas souvent quand même, je ne vais pas non plus. Mais quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin que Dieu regarde et qui dit « Moi, je veux avoir le trait de Béthanie. » Parce qu'il a été à Béthanie, parce qu'il a été là où on l'aimait. Et Jésus reviendra chercher les siens. Il ne reviendra pas chercher les pentecôtistes plus que les baptistes. Des fois, j'entends de ces trucs, ça, c'est pathétique vraiment. Jésus conduira les siens. Il a conduit les siens à Béthanie. Et il les a bénis. Vous voulez une année bénie? Vous voulez une année bénie? Malgré les pleurs, les souffrances, la critique des pasteurs. Vous avez vu là? Quand même, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Il y a des gens qui vous feront de la peine. Que ça ne vous décourage pas. Ça a toujours été comme ça. Dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours de l'opposition. Si vous avez des doutes, venez avec moi, on va passer une semaine ensemble. On va prendre tous les textes. Et vous verrez que dès que Dieu bénit, il y a l'opposition. L'Église, je voudrais que cette année en 2015, ce qui caractérise notre Église, c'est qu'elle soit une vraie Béthanie. Un endroit où Jésus est reçu, bien reçu. Vous êtes d'accord? Un endroit où, dans nos cœurs à nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Chacun d'entre nous pouvons être une Béthanie. Le vrai chrétien, la vraie Église, c'est Béthanie. Et pourtant, Béthanie, vous savez ce que ça veut dire? La maison de l'affligé, ou la maison des dattes. Comme je le disais autrefois, j'ai même vu une traduction, la maison des figues, pour expliquer qu'il n'y avait pas de figues à Jérusalem, mais il y en avait à Béthanie. Oui, il y avait du fruit à Béthanie. On va fermer les yeux quelques instants. Et je voudrais vraiment encourager ceux qui sont peut-être comme Anne à ce moment. Écoutez bien, cette prédication, elle m'a été imposée. Je vous le dis. Elle m'a été imposée. Je demandais à Janson, s'il vous plaît, de choisir des frères. On reste recueillis. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Mon frère, ma sœur, écoutez bien, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser. Peut-être ça fait des années que vous pleurez. Peut-être que vous ne mangez pas bien. Des années que quelqu'un vous irrite. Des années que vous souffrez qui a de la douleur. Moi, je vous dis que Dieu est en train de préparer un instrument. Et je voudrais vous encourager, comme Marie, comme Anne, à ne pas passer à côté. Marie, elle n'est pas passée à côté de la bénédiction. Vous savez, le jour de la résurrection, il y avait trois femmes. Il y avait Marie, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques, et Salomé. Elles sont parties au sépulcre pour embaumer le corps de Jésus. Elles n'ont pas pu le faire. Pourquoi ? Parce que Jésus était ressuscité. C'était trop tard. C'est la dernière pensée qui m'est venue à l'esprit quand j'ai préparé cette prédication. Vous savez, quand on va être près du Seigneur, on va se dire, il y a plein de choses qu'on aurait pu faire, mais ça sera trop tard. Et s'il y a bien un moment où nous pouvons répandre du parfum, enfanter des Samuel, c'est maintenant. Tant que Jésus n'est pas revenu, tant que nous ne serons pas avec lui, c'est maintenant. Et le diable, je vous assure, il va utiliser des Judas ou des Pénina, mais ne les écoutez pas. Fixez les yeux sur Jésus. Et je voudrais que l'on puisse prendre ce pain et ce vin vraiment dans la victoire. Et de dire, je vais ressembler à cette femme. Moi aussi, je vais répandre mon cœur. Moi aussi, je vais briser mon vase et répandre le parfum sur les autres. Puisque Jésus-Christ est au ciel, eh bien, c'est sur l'œuvre de Dieu que je vais le répandre. Parce que ne dites pas dans la prière, je répands sur Jésus. Non, répandez-le sur vos frères et sœurs, sur vos enfants, sur votre conjoint, sur vos amis, répandez ce parfum de Christ.